ce qui ressort, c'est que déjà la France, par rapport à un certain nombre de pays, et encore une fois les pays nordiques ou aussi le Canada, étaient très en retard par rapport à l'utilisation de ces nouvelles technologies, que ce soit d'une part à travers l'équipement et aussi leur utilisation. Elle a petit à petit rattrapé son retard, c'est ce qui ressort des statistiques internationales, mais malgré tout, dans l'utilisation pédagogique, on voit que les pays qui utilisent ces nouvelles technologies arrivent justement à attirer l'œil, à attirer différents publics. L'impact des nouvelles technologies, et il y a eu pas mal d'études qui ont été faites dans les classes difficiles, est un moyen de sortir de leur contexte habituel les élèves et de permettre de les capter un petit peu plus. Donc ce n'est pas forcément non plus une solution miracle. On ne peut pas imaginer que si on n'avait que de l'enseignement sur des nouvelles technologies, on aurait une amélioration significative des systèmes d'éducation. Mais malgré tout, l'utilisation à petite dose ou l'intégration de ces nouvelles technologies dans l'enseignement, dans certains exercices, c'est quelque chose qui est positif dans les pays qui ont fait des études sur ce domaine.
Moi, je pense que les questions d'éducation sont bien plus politiques. Elles ont été jusqu'à présent traitées comme des questions souvent techniques, où justement il fallait se limiter au cercle des enseignants parce que c'est des plus compétents, ce qui est vrai, c'est des tas de choses, mais c'est une question politique. J'ai quand même suggéré qu'il y a quand même des tensions sociales autour de l'éducation. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Donc l'éducation est très utile pour avoir les meilleures places et que les places restent très inégales. Il y aura toujours des conflits sociaux. Alors là, on ne parle plus de lutte des classes, maintenant on parle d'égalité des chances. Mais c'est pareil, je veux dire, c'est le même genre de choses. C'est-à-dire que tout le monde se bagarre. Donc, à la limite, je pense qu'on serait plus détendu autour des questions scolaires, justement, si peut-être on donnait moins d'importance à l'éducation et plus d'importance à d'autres politiques. Mais ça, c'est une réflexion personnelle qui n'engage que moi, d'ailleurs, et que je pense qu'il n'y a pas de recherche. C'est un problème politique. Hein, et je pense que c'est plutôt les parents et nous tous qui sommes ici en disant qu'est-ce qu'on a envie que les jeunes du pays savent faire et quelle chance on veut qu'ils aient dans la vie. Et c'est bien plus ça que de se limiter à des consultations internes très limitées, etc., comme l'ont fait trop souvent les projets de réforme.
J'aimerais juste ajouter un point, c'est vraiment les projets de réforme, il y en a beaucoup qui ont été faits depuis une quinzaine d'années, et malheureusement, ils n'ont pas toujours été utilisés. Un des projets les plus aboutis, c'était le rapport Tello qui a été publié, je crois, il y a une dizaine d'années.
C'est une consultation
qui impliquait des chefs d'établissement, des enseignants, des syndicats, des politiciens, des élèves, et qui était finalement un résumé et qui était accepté par tous les acteurs de l'éducation. Ce rapport, finalement, rien n'a été mis en place dans les réformes qui étaient proposées. Et c'est ça, peut-être, le problème aujourd'hui. Des rapports, des consultations, il y en a beaucoup. Après, l'application et la retranscription en termes de réformes, il y en a peu aujourd'hui dans le système d'éducation. Car comme l'a dit Marie de Rubella, l'éducation est un sujet très sensible. Et toute réforme, tout changement du système d'éducation peut entraîner des problèmes, des grèves. Et donc ça pose un problème qui n'existe pas dans d'autres pays où l'éducation est moins peut-être au cœur du débat, à moins cette sensibilité populaire quelque part qu'elle a en France.
Comment inciter les enseignants à faire évoluer leurs pratiques ? Parce qu'après tout, les enseignants ne sont pas tous des militants. Vous allez vous dire, ils sont tous de gauche, d'abord ça reste à voir. Et puis, entre être de gauche, mettre un bulletin, et puis vouloir supprimer les inégalités, il y a quand même une certaine distance. Hein. Donc, les enseignants sont des professionnels comme les autres. Ils n'ont pas forcément envie non plus de s'échiner à des tâches qui sont difficiles. Qu'est-ce qui peut les inciter ? Le problème, c'est les incitations. Donc, les incitations, moi, je ne suis pas... je pense que beaucoup d'incitations matérielles ont échoué. Mais il faut quand même réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme incitation pour que des gens qui sont des gens lambda, qui ont droit d'être fatigués, de ne pas être militants, puissent faire évoluer leur pratique. Moi, je crois, mais alors là, je vais le faire vraiment au NIR, et on est d'accord peut-être avec le CDO, je pense qu'il faut beaucoup d'évaluations externes. Mais il faudrait en faire quelque chose. On est dans un pays, je le dis exprès, parce que je pense c'est sensible, l'histoire des évaluations, etc. On est dans un pays où on a certaines évaluations, mais on n'en fait rien. Or, les évaluations, c'est aussi un outil pour changer. Moi, en tant que prof, je regarde les évaluations de mes étudiants, ça me fait réfléchir, ça me fait évoluer, parce qu'on sent bien quand les gens ne sont pas contents, on a plutôt envie de s'améliorer, enfin, surtout avec des étudiants, mais je pense même à d'autres niveaux. Donc, je pense qu'il y a un problème, comme on dit, de pilotage, pour prendre un terme un peu technocratique, qui n'est pas réglé dans notre pays. C'est pour ça que j'en profite, d'ailleurs, pour apporter un bémol un petit peu à ce que disait mon collègue, parce que quand on dit les pays où il y a beaucoup d'autonomie d'établissement, c'est mieux, c'est bien s'il y a par ailleurs de l'évaluation. Parce que l'autonomie sans évaluation, c'est la catastrophe. Ça veut dire que chaque établissement, alors il y aura les riches, les pauvres, il n'y a plus de système éducatif, tout le monde fait comme il veut. Et on a quand même un peu ce danger en France, me semble-t-il. Mais bon, je n'ai pas répondu à toute votre question, mais voilà ce que je veux dire.
Et l'OCDE vient de sortir une étude qui s'appelle TALIS, qui évalue justement les enseignants du secondaire, du collège, où...
TALIS,
T-A-L-I-S. Malheureusement, la France n'a pas participé, mais malgré tout, c'était très intéressant pour nous d'analyser les résultats, parce qu'on a vu que les enseignants, quelque part, recherchent l'évaluation. Dans les pays où il n'y avait pas d'évaluation, les enseignants étaient mécontents, car ils ont envie d'être évalués sur leur métier, ils ont envie aussi d'évoluer. Les enseignants, et une des grandes statistiques de cette étude TALIS, c'est qu'ils étaient demandeurs de développement professionnel, de suivre des cours, d'avoir ces possibilités d'évolution dans leur carrière, qu'ils étaient prêts même à payer une partie de leur salaire dans un certain nombre de pays pour pouvoir bénéficier de ces évolutions. Je crois qu'aujourd'hui aussi, à travers, et là c'est pas sur des statistiques que je peux me baser, mais plus par des participations à des conférences, des voyages un petit peu dans différents pays, on voit qu'il y a une forme de critique assez permanente des enseignants en France. Si vous regardez, et il y a eu une étude qui a été faite sur les jeunes enseignants français qui sont à l'UFM, les enseignants sont prêts à changer leur méthode pédagogique, sont prêts à voir une réforme de leur système, de leur façon d'enseigner, sont prêts à travailler en petits groupes. Ils ne sont pas forcément fermés avec des méthodes rigides qui ne sont pas évolutives. Aujourd'hui, ils sont juste dans un système d'éducation où il y a un manuel scolaire qui est très long, qu'il faut suivre, et finalement, ils ne sont pas tentés d'expérimenter des nouvelles techniques. Alors bien sûr, on pourra prendre toujours des exemples au cas par cas d'un enseignant dans telle école ou d'un autre enseignant, mais je crois que dans la globalité, le problème aujourd'hui, c'est la formation des enseignants. Il n'y a peut-être pas assez de pratiques sur le terrain, contrairement à d'autres pays. Et puis, il y a aussi le découragement des enseignants débutants quand ils démarrent leur carrière et qu'ils se retrouvent dans des écoles difficiles. Ils n'ont pas été préparés à ce constat. Dans toute la formation des enseignants, que ce soit le CAPES ou l'agrégation, on n'a pas un stage pour démarrer dans une école, dans une ZEP, comme ça sera le cas pour la plupart des jeunes enseignants. Il est là le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des jeunes enseignants sont découragés après quelques années de pratique. Donc il faut trouver des incitations, des moyens pour que leur intégration dans ce métier soit plus facile et pour que justement ils ne soient pas découragés au bout d'un certain nombre d'années et quittent ce milieu pour aller dans le privé. Si vous regardez les statistiques sur les agrégés en France, vous verrez qu'il y a quasiment 50% des agrégés qui ne vont pas travailler dans l'enseignement ou alors ils vont faire des doctorats pour rattraper l'enseignement au niveau de l'université. L'agrégation, normalement, est faite pour avoir des bons enseignants dans le secondaire. La réalité des faits, elle est complètement contraire aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de pistes aussi pour améliorer la situation des enseignants, mais je crois qu'il ne faut pas tirer à boulet rouge sur les enseignants en France parce qu'ils font face aussi à des difficultés. Et on pourrait prendre aussi bien l'exemple qui a été pris sur des pratiques d'enseignants, on pourrait prendre des pratiques de parents, on pourrait prendre des attitudes d'élèves, et il ne faut pas tomber dans un discours trop généraliste.
Rajouter un mot donc, sur les attitudes des enseignants, on a quand même des enquêtes PISA aussi des questions sur la nature des relations avec les enseignants. Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, que vos enseignants vous poussent à apprendre, vous aident à réussir, etc. Et la France, de ce point de vue-là, est quand même très très mal placée, quoi. On est à des pays où les élèves répondent le plus souvent « Bon non, mes professeurs ne m'encouragent pas à apprendre ». Donc c'est quand même un problème. Je pense qu'il y a une telle crispation sur le savoir, les programmes, etc. et tellement de méritocratie, d'une certaine manière, que, bon, nous, on a fait des comparaisons internationales ces derniers temps, y compris qualitatives, par exemple en Italie. On a été dans un collège italien, on avait eu un prof de français qui lui dit « Oh oui, moi j'ai plein d'élèves qui ne sauront jamais parler français. » Mais le principal, c'est qu'ils soient bien dans la classe. Bon, alors ça paraît un peu eau de rose, hein, mais c'était quand même l'esprit qu'il y avait dans ces établissements en Italie, qui est un pays où il y a moins d'inégalités que chez nous, qui un peu, les performances moyennes sont un peu moins bonnes, mais il y a moins d'inégalités, bon, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Hein, mais, donc il y a des climats, il y a quand même un climat scolaire qui apparaît, notamment aux yeux des observateurs étrangers, très raide, très distant. Même les étudiants allemands qui vont dans les classes françaises, par exemple, sont assez terrifiés de bon, les anglo-saxons, n'en parlons pas, évidemment. Donc, on a quand même aussi un style de relation qui peut bien sûr évoluer. Mais je pense que c'est toujours cette focalisation sur le savoir qu'on a aussi dans le recrutement des maîtres, évidemment, puisqu'ils sont recrutés sur leurs compétences scolaires, académiques, etc. Donc, on a un système, enfin, tout ça forme un système. C'est pour ça aussi, deuxième chose que je voudrais ajouter par rapport à ce qui a été dit par mon collègue, c'est qu'on peut pas, c'est pas un mécano l'école. On ne peut pas prendre un bout là, on dit, oh, ça c'est bien, et puis un bout là. Parce qu'il y a quand même aussi, tout ça forme un système. Hein. Et donc, attention aussi aux comparaisons internationales qui sont très séduisantes, mais on n'est pas dans un jeu de construction. Quoi. On sait qu'au Danemark, par exemple, où les jeunes sont beaucoup moins apeurés, ils ont un système de va-et-vient possible avec l'insertion. Ils ont droit, par le gouvernement, c'est un système très généreux, hein. Pays aussi, un petit peu riche, ils auront un certain nombre d'années d'études, mais ils ne sont pas obligés de les faire tout de suite. Et pratiquement personne, enfin tout de suite en sortant du lycée, hein, donc ils peuvent aller dans la vie active, faire autre chose, hein, et revenir en formation. Et ils n'ont pas l'impression de tout jouer sur leur choix d'orientation. C'est pas étonnant, alors que chez nous, les Français, par comparaison, c'est le tunnel, hein, c'est l'image du tunnel. C'est je joue tout mon avenir sur mon premier choix, c'est pas étonnant qu'ils aient du mal à s'orienter, c'est vraiment très effrayant, et après je joue toute ma vie comme ça. Donc c'est un système qui permet plus d'aller-retour, donc ça je pense qu'il y aurait des solutions, alors l'alternance, il y a le pire et le meilleur, hein, mais on pourrait avoir un système qui favorise les retours en formation, c'est vraiment, on a des pays d'Europe où il y en a le moins, hein, donc nous on joue effectivement toute sa carte, entre jusqu'à 22-23 ans, puis après, voilà.
Bon, je partage et juste je voudrais ajouter par rapport à cette peur aussi, cette peur à l'intérieur du système d'éducation des élèves français. C'était une des statistiques les plus étonnantes de PISA. PISA, c'est un test où il y a des questions ouvertes parfois, où on sort un petit peu du domaine scolaire pour demander ce que comprennent les élèves des choses. Et la non-réponse n'est pas sanctionnée. Et quand on a fait des statistiques sur les taux de non-réponse, on a vu que c'était la France, le pays de tous les pays de l'OCDE où le pourcentage de non-réponse était la plus forte. C'est-à-dire qu'il y a une peur de l'échec, une peur que, alors que l'échec n'est pas sanctionné. Donc il y a tout intérêt à répondre à la question. À la limite, on peut récupérer des points et on ne risque pas d'en perdre. Mais c'était assez symptomatique finalement. Et quand on l'associe avec cette anxiété vis-à-vis des mathématiques, on voit bien que le système d'éducation lui-même est aussi créateur de peur. Donc c'est aussi une des pistes quand on parle d'assouplir peut-être les systèmes de notation, de permettre aux élèves de s'épanouir à l'intérieur de l'école. Je crois que ces statistiques mettent en avant qu'il y a un problème en France et qui est plus marqué que dans d'autres pays.
Je pense que personne en France n'envisage singulièrement ça, parce qu'on n'a pas d'outils pour mesurer le mérite des enseignants. Parce que dans des pays comme les États-Unis, où il y a une tradition de testing extrêmement importante, qui remonte à l'après-guerre, hein, ils font des tests depuis qu'ils sont tout petits, si on peut dire, les Américains, ils ont des épreuves en début d'année, en fin d'année, ils font beaucoup de testing, ils testent les enseignants et les écoles, jusqu'à nouvel ordre, ce qui était plutôt à l'ordre du jour, c'était l'évaluation des écoles, avec des pratiques qui ont peut-être des bons côtés d'ailleurs, du genre, quand une école vraiment est trop mauvaise au sens où les élèves ne progressent pas du tout, on la ferme et on disperse les gens parce que vraiment on se dit au bout d'un certain temps on ne peut pas y arriver. Hein. Ce qui peut être une façon aussi de résoudre le problème, mais ce n'est pas sûr. Le testing individuel, la progression au mérite individuel, je ne sais pas ce que j'en pense. Moi j'en pense, non, j'en pense pas du bien parce que pour plusieurs raisons. D'abord, les Américains eux-mêmes découvrent qu'il y a des dérives, du genre teaching for the test, on apprend aux élèves à réussir le test et donc il y a une centration de l'enseignement sur ce qui est mesuré. Ce qui peut être d'ailleurs une dérive de PISA, mais bon, on n'est pas là pour le moment, hein, heureusement. Donc il y a ça. Il y a le fait qu'en général, alors je dis bien, ce serait des mesures au mérite, c'est-à-dire on aurait le niveau initial des élèves, évidemment. On n'envisage pas, on n'est pas stupide aux États-Unis, de prendre que le niveau final. Hein, on va tenir compte du niveau initial et voir la progression. Bon, d'abord, c'est très lourd, hein, c'est des usines à gaz. Hein, un test en début d'année, un test en fin d'année. Déjà, ça c'est trop lourd pour nous. Bon, il y a le teaching for the test. Il y a le fait que ça réduit donc effectivement l'enseignement sur cette matière, et il y a aussi le fait qu'on n'apprend pas qu'avec un maître. Donc, en général, surtout d'ailleurs à partir des niveaux élevés, les effets maîtres se conjuguent au sein d'une école, ce qui fait qu'il y a des écoles efficaces et des écoles moins efficaces. Donc c'est aussi un paramètre. Et un dernier paramètre, mais ce n'est pas le moins important, c'est que c'est plus facile d'être efficace dans certains contextes. Bon, la notion d'efficacité contrôle évidemment le profil des élèves, etc. Mais il y a des effets agrégés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'élèves difficiles, même si on tient compte individuellement de l'élève, c'est plus dur. Donc il y a des effets de contexte. Et ça, on ne peut pas les prendre en compte. Donc c'est plus héroïque hein, d'être... Voilà. Donc il y a un certain nombre de raisons, mais je ne pense pas qu'ils le feront à grande échelle. C'est impossible, là, je n'ai pas grandi. Ça se ferait par sondage. Enfin, on avait discuté, c'est vrai que Thélo était très séduit par ces trucs-là, et comme c'est un homme intelligent, il avait vu que c'était absolument impraticable, ingérable socialement. Qu'est-ce qu'on fait des pas méritants? C'est une question, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est un peu le problème qu'on a eu en France avec les audits d'établissement. On a fait des audits d'établissement, mais on n'en a rien fait. Rien. En France, c'est ce que j'ai dit, on fait certaines évaluations, mais on n'en fait rien. Tant qu'on n'en fait rien, ça ne sert à rien de faire ce vinaigre.
Il y a d'autres éléments qui sont importants. Et aujourd'hui, l'élément le plus problématique, c'est que les enseignants ne se sentent pas bien dans leur classe. Et si vous prenez l'exemple de la Finlande, et c'est vraiment sur ce point que j'aime bien parler de la Finlande, le chef d'établissement a l'autonomie pour recruter son équipe pédagogique. Donc, c'est-à-dire, il reçoit des CV. Et il y a à peu près 10 candidats pour un poste d'enseignant en Finlande, et il va pouvoir recruter son équipe pédagogique. Parfois, il ne va pas choisir forcément l'enseignant qui a les meilleures performances académiques, il va prendre l'enseignant qui va bien s'insérer dans une équipe pédagogique. Et je crois que quand on parle d'évaluation, on revient au niveau individuel. Il faut aussi évaluer son établissement dans la globalité, de voir comment les enseignants travaillent ensemble. Car si on met à l'intérieur de l'école une notion trop individualiste, quelque part, l'enseignant a juste la responsabilité de s'assurer que l'élève réussit dans sa matière, et il n'y a pas cette notion de collectivité. Et la réussite de certains pays, c'est vraiment une équipe pédagogique, c'est pas simplement le prof de maths qui permet d'avoir des bonnes notes à ses élèves en mathématiques. Il discutera avec les autres enseignants, peut-être, aider à trouver comment améliorer la performance de l'élève. Donc je crois qu'il faut être prudent avec ces évaluations individuelles.
Il y a un collègue anglais qui travaillait là-dessus, qui disait que la méritocratie c'était un moral gloss. Un gloss, vous avez tout construit sur l'élève là, pour faire joli, un gloss moral. Donc ce qui va assez dans le sens de ce que vous avez dit, à savoir, c'est vraiment quelque chose, on est content d'être dans une méritocratie, car en fait tous les sujets de casse, c'est les arriérés, et nous au moins c'est bien, on est moderne, on est méritocrate. Ok, ceci dit, ce n'est pas que le libéralisme. Si vous regardez les propos de Jean-Pierre Chevènement, quand il était ministre, l'élitisme républicain, c'est exactement la méritocratie, hein. C'est l'idée qu'on va sortir les meilleurs du peuple pour les mener aux meilleures places, etc. Donc je pense que le problème est bien au-delà du libéralisme. Ça renvoie à d'autres débats. Je connais moins les questions sociales que vous évoquez, mais vous avez peut-être entendu parler, c'était en septembre, hein, où il y a eu cette commission sur la mesure de la performance économique, avec notamment Sen, hein, cet économiste, hein, qui a dit le problème finalement c'est comment on mesure la richesse, le bonheur, etc. Donc je suis encore généralement plus englobante que vous, et je pense que le problème il est là. Sen a écrit dans un de ses articles, hein, le mérite, ça, on le définit selon ce qu'on définit comme une bonne société. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on se considère comme méritant, qu'est-ce qu'on veut récompenser comme comportement. Il explique un peu ça, il dit, quand je dis que c'est du mérite, là, je veux encourager ça. Qu'est-ce qu'on veut encourager? Donc je pense qu'en arrière-plan, mais ça, c'est bien sûr d'autres problèmes, ça nous entraînerait beaucoup plus loin, c'est ce problème-là, c'est quelle société on veut, qu'est-ce qu'on définit comme la richesse, hein, et qu'est-ce qu'on veut récompenser, et donc on va définir comme le mérite. Donc je pense qu'il y a même au-delà de cette histoire de libéralisme, hein, c'est le problème de la société qu'on veut. Voilà, et la rémunération, c'est ça aussi. Hein, c'est qu'est-ce qu'on encourage? Alors, est-ce qu'on encourage effectivement les traders, c'est une exemple facile, hein, ou qu'est-ce qu'on encourage d'autre? C'est le problème de choix politiques fondamentaux. Donc, vous voyez, je suis à la fois assez d'accord, mais je pense qu'il ne faut pas réduire ça au libéralisme. On aurait la même chose avec un certain nombre de mouvements ou de partis de gauche. On aurait la même chose. Oui, moi je suis inquiète comme vous, quoi, hein, quand je vois que les parents d'élèves, soutenus parfois par certains enseignants ou collectifs, veulent supprimer de la base élève certains enseignements, notamment sur l'origine sociale. Je pense que c'est une catastrophe. Alors évidemment, on a eu des précédents qui peuvent inquiéter, hein, notamment tous les débats qu'il y a eu sur le fichage des jeunes enfants. Enfin, quand même, c'est vraiment un retour en arrière. Jusqu'à présent, toute l'analyse des inégalités sociales, à la limite, le monde entier nous enviait des panels. Bon, maintenant, c'est fini, il y a encore des panels, mais c'est vrai que je suis inquiète. Ceci dit, on fera des enquêtes par sondage. Si on a des crédits, on en aura, parce que maintenant, les crédits donnés au niveau européen sont très importants. Et de ce point de vue, on fera des enquêtes, mais c'est quand même beaucoup plus lourd, quoi. Et donc, de ce point de vue-là, de même que je suis personnellement pour les statistiques ethniques, je le dis, même si je me fais incendier, donc pour les mêmes raisons, je veux dire, casser le thermomètre, ça n'a jamais été la solution, quoi. Donc, voilà pour le premier point, mais peut-être qu'on ne sera pas d'accord. Le deuxième point, l'échec des garçons. Alors, je pourrais commencer par une boutade, hein, disant, tant que c'était les filles qui faisaient des expériences scolaires moins longues, on s'en fichait un petit peu. Donc, maintenant, c'est les garçons, donc attention, les pauvres garçons, etc. C'est quand même pas si dramatique que ça. Le problème des garçons, c'est effectivement l'apprentissage de la lecture. Donc ça, c'est embêtant parce que c'est cumulatif. Après, si on regarde ceux qui survivent, hein, dans les grandes écoles et autres, c'est pas vraiment un échec des garçons. Le problème des garçons, il est précoce et lié à certains milieux sociaux seulement. Les garçons de milieux aisés, ils font polytechnique, il n'y a pas de problème. Hein. Donc c'est quand même, déjà, ça montre bien que c'est pas lié au sexe en tant que tel. Hein, c'est vraiment un ensemble de modèles, de formes d'éducation des garçons ou de modèles virils présentés aux garçons dans certains milieux sociaux, dans certains environnements sociaux. C'est un problème qui est entièrement social, qui préoccupe dans certains pays, pas encore trop en France, moi qui me paraît assez préoccupant parce qu'ils commencent par pas apprendre à lire, après ils sortent en formation, puis après ça fait aussi des hommes violents, et après tout, moi comme femme, je n'aime pas trop les hommes violents, donc c'est quand même un problème social. Hein. Et c'est avant tout, je pense, un problème de modèle de la virilité et d'éducation, mais qui est lié à des ensembles de facteurs sociaux. Voilà ce qu'on peut dire. Alors après, pour se mobiliser là-dessus, c'est pas évident, parce que ces modèles sont portés par des médias aussi. Hein, c'est-à-dire, il y a tout un ensemble. Enfin, là, vraiment, on touche vraiment la définition du masculin et du féminin. Donc, évidemment, c'est pas en un tour de main qu'on va... Voilà. Mais, il y a des pays où c'est moins comme ça. Là aussi, ça fait, c'est pas mal les comparaisons, parce qu'on dit c'est pas dans la nature des choses. Voilà, il y a quand même des pays où c'est moins marqué.
Tout à fait. Je vais déjà répondre à la première question sur les évaluations. Et c'est vrai que pour nous, l'OCDE, c'est dommageable de ne pas avoir la France dans toutes les études. Après, ce sont des choix politiques. Et c'est vrai que l'ensemble des études internationales, comme elles sont de plus en plus nombreuses, j'imagine que ça a un coût au niveau d'un pays. Et il y a une forme d'arbitrage qui permet d'aller dans une direction ou dans une autre. Mais malgré tout, il existe des statistiques qui sont produites par le ministère de l'Éducation lui-même. Si vous allez dans les publications de l'ADEME, comme l'état de l'école, vous avez quelques statistiques sur les inégalités qui sont complètement frappantes. Le chiffre que je vous ai cité, la différence entre les collèges ambition réussite et les collèges hors éducation prioritaire sur la classification socio-économique des parents, c'est-à-dire 75%. Des parents d'ouvriers, enfin dans les ZEP, il y a 75% d'enfants dont les parents sont ouvriers ou inactifs, alors que c'est 25% dans hors éducation prioritaire. Ce sont des statistiques qui sont produites par le ministère de l'Éducation. Donc je crois qu'il y a quand même des publications qui existent et qui sont peut-être mal utilisées par les politiques eux-mêmes. Sur la question sur les garçons et filles, c'est vrai que c'est un constat qui est assez frappant et alarmant, parce que quand le premier PISA est sorti dans les années 2000, il y avait globalement, si on schématise le message, c'était les garçons sont moins bons en lecture, mais sont plus forts en mathématiques que les filles. Quand on regarde le PISA qui est sorti en 2006, on a les garçons sont vraiment dans tous les pays significativement moins bons que les filles, et en lecture. Et l'écart entre garçons et filles en mathématiques n'existe plus dans un grand nombre de pays. Donc c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un changement et une aggravation de ces écarts entre garçons et filles qu'on retrouve aussi dans l'entrée à l'université. Quand on compare les statistiques il y a une quinzaine d'années avec les statistiques présentes, on voit bien que les filles sont plus nombreuses aujourd'hui que les garçons en moyenne à entrer dans toutes les filières de l'université, que ce soit les filières scientifiques ou, comme c'était déjà le cas par le passé, les filières littéraires. Donc je crois qu'il y a un vrai débat de réflexion. L'OCDE n'a pas vraiment travaillé sur les solutions, mais a vraiment constaté cette aggravation des inégalités entre les garçons et les filles.
qui est surtout d'ailleurs l'aggravation des inégalités, au fait que les filles ont rattrapé les garçons, notamment parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont, qui ont poussé les filles dans les options. Vous savez, il y avait beaucoup de pays où il y avait, à partir de 14 ans, notamment la Grande-Bretagne il y a quelques années, où on pouvait, à partir de 14 ans, pratiquement, si on décidait, entre guillemets, abandonner les études scientifiques, la physique, les maths, etc. Et les filles le faisaient plus souvent. Et en général, dans ces pays, on a supprimé les options pour que tous les élèves aillent jusqu'au bout, et c'est comme ça aussi que les filles ont rattrapé. C'est pas que les problèmes éventuels psychologiques ou sociaux que j'évoquais sont aggravés, c'est aussi que les filles ont amélioré. Il y a eu aussi des campagnes dans certains pays, une mobilisation, qui ont peut-être porté leurs fruits. Et puis, c'est aussi un mouvement cumulatif, le rattrapage des filles, parce que les filles voient bien aussi que sur le plan du marché du travail, elles s'insèrent, d'ailleurs, à l'heure actuelle, sur, c'est pas très connu, mais sur 100 jeunes filles et 100 jeunes gens, les filles accèdent plus souvent à des emplois de cadre et de professeurs intermédiaires, hein, que les garçons. Donc, donc elles voient aussi des perspectives de débouchés, et donc ça les motive par rapport à... Il y a même eu des travaux anglais qui disaient que les filles avaient commencé à rattraper leur retard en Grande-Bretagne parce que Mme Thatcher leur avait montré qu'elles pouvaient être, etc. Donc tout ça joue beaucoup, quoi. Il y a le contexte général qui peut pousser aussi les jeunes, hein, à investir dans les études. Donc, c'est des questions assez complexes. Mais il y a eu un rapport de l'OCDE assez complet là-dessus, Gender and Education, où il y a toutes les recherches.
Ce qui est assez étonnant aussi, c'est que malgré tout, sur le marché du travail, les 40 hommes et femmes demeurent très importants
dans étonnant.
Tous les pays de l'OCDE.
C'est pas étonnant, parce que les enquêtes du CEREG dans notre pays montrent qu'au niveau de la première insertion, il n'y a pas beaucoup d'écart, et quelques années après, à l'âge où viennent certains enfants, et ben ça décroche. Donc tant que la famille ne suit pas ces évolutions, on va trouver des écarts très vite. Hein. Ça, on le voit très bien avec ces études. C'est vrai que c'est vraiment à l'âge de la formation de la famille que, hop, ça se diverge, ça diverge. Imaginons que, mais c'est vraiment de l'utopie, mais ça pourrait être une direction, qu'il n'y ait plus d'inégalité de salaire. Tout le monde est payé pareil. Je pense que ça révolutionne tout. L'orientation, la hiérarchie des disciplines et le fonctionnement de l'école. Hein, parce que les diplômes n'ont plus du tout le même rôle. Donc, par exemple, je pense que resserrer les écarts économiques, c'est bête de dire, mais il faut quand même le dire de temps en temps, on parle que d'égalité des chances maintenant. Mais resserrer les inégalités économiques, resserrer les inégalités entre les familles et entre les positions que visent les enfants, c'est vraiment une piste, c'est la piste la plus importante. Les jeunes pourraient faire dans de la philo si ça les chante, ils savent qu'avec ça, ben, ils ne sont pas trop inégaux par rapport à celui qui fait de la finance. Enfin, ça révolutionnerait complètement les règles de l'orientation, la hiérarchie des disciplines, le climat des classes. Hein, celui qui ne réussit pas trop bien parce qu'à 16 ans, il est amoureux et qu'il a autre chose à faire que passer son bac, ben, il ne se dirait pas qu'il est fichu pour la vie, etc. Donc, je pense que la question de l'inégalité des positions est très importante. De même, la question du retour en formation que j'évoquais. Si on ne jouait pas tout, une fois pour toutes, à l'école, là aussi, ça changerait le climat des classes. Les écoles de la deuxième chance, on faudrait évaluer exactement, mais c'est une piste intéressante. Hein. On peut avoir des accidents de la vie à 16 ans et se dire qu'on peut les rattraper. Donc, il y a des choses dans ces directions-là. Si les familles étaient moins inégales, les gamins ils seraient moins inégaux et on aurait moins de problèmes à l'école.
Et vous avez des pays qui se sont déjà orientés vers une égalité des chances. Si vous prenez la Suède, par exemple, c'est l'un des pays où quand on rentre à l'université, tous les étudiants bénéficient, il n'y a pas de frais d'inscription et tous les étudiants bénéficient d'une bourse. Et c'est vraiment... une des mesures fortes qui a été prise pour ouvrir, laisser la chance de rentrer à l'université pour tous les élèves, quel que soit leur milieu défavorisé ou favorisé. La politique et le raisonnement de la Suède, c'est quand on regarde les niveaux de taxation, d'imposition sur les premiers salaires, ils sont beaucoup plus forts qu'ailleurs. C'est-à-dire d'un côté, la société accepte que tous les élèves peuvent bénéficier de l'enseignement supérieur, et quelque part il y a un rattrapage de l'argent quand on commence à travailler. Et c'est un genre de système assez égalitaire et qui fonctionne très bien et qui est accepté par l'ensemble de la population suédoise, qu'on aille ou qu'on n'aille pas à l'université. Donc ça, ce sont des mesures qui existent. Aujourd'hui, en France, il y a un gros problème par rapport à l'enseignement supérieur parce qu'il y a beaucoup d'inégalités déjà entre les institutions. Si vous regardez les grandes écoles, elles sont sélectives. Si vous regardez les filières courtes comme les IUT, elles sont sélectives. Si vous regardez l'université, tout le monde peut y accéder. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des bacheliers généraux qui devraient aller à l'université, mais qui vont préférer un choix pragmatique. Il y a trop d'échecs à l'université. Je choisis d'aller vers une filière courte, comme les IUT, et je verrai ce que je vais faire après. Donc ça, c'est un des choix. Donc ils y vont, ils sont acceptés car ils ont des meilleurs dossiers. Donc il y a des bacheliers technologiques qui devraient aller vers les IUT, qui se retrouvent sans avoir de place. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'inscrivent à l'université car c'est non sélectif. Quand on regarde les taux d'échec à l'université pour les bacheliers technologiques, dans les deux premières années de l'université, il y a 75% de taux d'échec. Donc on voit bien que là, il y a déjà un premier problème du système français, c'est une forme d'inégalité entre les différentes institutions qui crée finalement une perte d'énergie, un découragement de beaucoup d'élèves qui se retrouvent en situation d'échec. Si on revient également sur la hiérarchie des diplômes, vous avez des pays où il y a beaucoup plus de flexibilité qu'en France. Si vous prenez le Canada, on peut commencer ses études universitaires, aller travailler 2-3 années au bout de 2 années et revenir plus tard pour finir son cursus, pour avoir sa licence. Il y a une forme de liberté individuelle qui est beaucoup plus forte en France, et peut-être qu'avec les réformes de Bologne, on est en train de s'orienter vers des systèmes de crédit, mais ça a l'air mal parti. Soit on obtient son diplôme, soit on est en situation d'échec. Et ça, c'est un problème. Dans beaucoup de pays, on peut arrêter ses études, les reprendre plus tard, sans pour autant que ça soit considéré comme un échec. Donc il y a vraiment tout un travail pour améliorer l'égalité des chances qui va aussi dans une réforme des institutions du supérieur. Et un dernier point sur les enseignants. Il est très intéressant de regarder que les deux rapports qui sont sortis sur consultation, le rapport Descoings et le rapport Apparu, ne mentionnent pas de propositions, très peu, sur la réforme de la formation des maîtres. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu un sujet tabou. C'est un sujet qui avait été abordé dans le rapport Tello. Et on a l'impression qu'on est en train de proposer différentes réformes dans différents aspects de l'éducation, mais qu'il n'y a rien à faire sur la formation des maîtres, alors que c'est un des points fondamentaux de la réforme de l'éducation.
Les garçons très bons en maths, c'est les garçons enfants de cadre, parce qu'ils visent Polytechnique. Quand je dis ça, c'est pas n'importe quoi. Si vous prenez des enfants de cadre avec un bac scientifique, il y en a la moitié chez les garçons qui rentrent dans les classes préparatoires. La moitié. Chez les filles de cadre, hein, c'est 16 à 20%. Donc il y a une polarisation sur les grandes écoles pour les garçons. Donc il est évident que les parents vont pousser les garçons très tôt, les parents des milieux favorisés, donc c'est les très bons garçons. Et puis les très faibles, c'est le thème qu'on évoquait tout à l'heure, où ils n'ont même pas appris à lire. Or, pour réussir en maths, il faut quand même bien savoir lire en général. C'est très très utile. Donc on a cette polarisation. Il y a de toute façon plus de différences d'inégalité sociale chez les garçons que chez les filles. Chez les filles, comme leur situation encore aujourd'hui importe plutôt moins, on les laisse faire ce qu'elles veulent. Et donc, voilà, les filles, elles font ce qu'elles veulent. Donc même dans les filles de cadre, si elles ne veulent pas aller en S, on ne les embête pas. Un garçon fille de cadre qui ne veut pas aller en S, il est convoqué chez le proviseur et ses parents vont voir un psychologue, quoi. Donc, ça traduit des attentes différentes. Donc, il est évident que si Polytechnique ne recrute que sur les maths, ça va créer une inégalité. Mais ça, après, c'est la question des critères des grandes écoles. Est-ce qu'après, on veut des financiers qui fassent que des maths? On a vu ce que ça donnait. Voilà. Donc, après, c'est une progression sur les critères. Mais ça se comprend très bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des copistes. Ça, en soi, c'est pas scandaleux. Je veux dire, c'est normal que les critères de mérite évoluent avec le temps, les pleins et les déliés. On exigeait ça, on n'exige plus ça. OK, personne ne va pleurer là-dessus. Alors après, il y a des mouvements de balanciers qui vont avantager les uns, désavantager les autres. Donc effectivement, le problème, et je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on a une base assez étroite de définition des critères. On pourrait avoir une base plus large et moins tordue. Ceci dit, je voudrais quand même souligner que cette histoire qu'on sélectionne par les maths, elle est qu'imparfaitement vraie, parce que le principal échec, il est l'apprentissage de la lecture en primaire. Celui qui n'apprend pas à lire en primaire, c'est fini, hein. Donc, que ça soit uniquement, c'est après, hein, pour après pour Polytechnique versus les autres voies, mais le français, et même du temps que j'ai fait des études sur l'orientation dans les années 80, la note de français jouait plus que la note de maths pour l'accès en seconde. Alors après, il y avait le type de seconde. Hein. Donc, il ne faut pas non plus être, je ne pense pas qu'on soit hyper focalisé sur les maths, mais il y a des mouvements effectivement de balancier, ça c'est normal. Alors là où la démocratie devrait intervenir, c'est dire qu'est-ce qu'on veut? Voilà. Donc, en ce sens, effectivement, on peut dire que c'est un problème de démocratie. Mais qui définit ça? Après, on a bien sûr des conseils, maintenant on a des conseils sur les programmes, etc. Mais c'est très décentralisé, c'est dans la classe que ça se fait. C'est... Bon, donc c'est pas démocratique, ça, c'est vrai.
Et puis si on regarde la situation de la France par rapport aux autres pays, et si on compare les années 80, 70, 80 et aujourd'hui, la France était un pays dans les années 80, 70 qui avait un retard en matière de niveau de diplôme, niveau d'éducation de sa population, c'est-à-dire la population qui allait jusqu'au CAP et au bac, et surtout la population qui rentrait dans l'enseignement supérieur pour être diplômée de l'université. Si vous prenez les années 80, il y avait à peu près 20% d'une classe d'âge qui obtenait un diplôme de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on est autour de 42-43%. Et souvent, on stigmatise à l'OCDE que la France, depuis les années 80, a rattrapé une partie de son retard en matière d'éducation. C'est aussi pour ça que quelque part, il y a autant d'imperfections dans le système de l'enseignement supérieur, de problèmes d'orientation. Parce que certains pays ont une tradition depuis 40 ans, 50 ans, d'avoir des universités qui fonctionnent et quelque part n'ont pas besoin de faire les mêmes réformes qu'en France. Et quand vous parlez du changement dans les années 80 où les mathématiques sont devenues une matière prédominante, c'est quelque part, ça correspond aussi à un moment où il y a eu un changement de stratégie où le niveau d'éducation est devenu fondamental. Si vous regardez le niveau d'éducation d'un enseignant il y a 30 ans, on pouvait être enseignant sans avoir eu le baccalauréat. Aujourd'hui, dans tous les pays, c'est le même cas, mais en France, il faut avoir au moins l'équivalent du CAPES. Donc il y a eu vraiment une grande révolution en France et dans beaucoup de pays européens qui ont suivi sur l'importance du diplôme. Et quand on regarde les courbes, oui, je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ma collègue, mais sur le fait que un des objectifs des gouvernements était de rattraper le niveau d'éducation. Et c'est pour ça que quand on regarde la comparaison des États-Unis avec un certain nombre de pays européens, on dit que les pays européens ont rattrapé leur retard en termes de massification de diplômes. Ça ne veut pas dire qu'il y a tout un travail à faire en termes de qualité et en termes d'adaptation entre le diplôme obtenu et les débouchés. Et là, aujourd'hui, la France, comme un certain nombre de pays européens, ont des lacunes. Car à force d'avoir développé la massification sans regarder les besoins du marché du travail, en développant le côté académique, finalement, au détriment de voir ce qu'avait besoin le marché du travail, on a créé un décalage qui fait que certaines filières sont peu porteuses en termes de débouchés, alors que d'autres ont finalement une pénurie de diplômés par rapport aux besoins du marché du travail.